Alors bonjour à toutes et à tous. Je voudrais simplement prier avant de commencer. Notre Dieu, chaque fois que nous ouvrons ta parole, nous attendons à ce que tu nous parles, tu t'adresses à nous. Alors je te prie Seigneur d'aider ce matin à ce partage de ta parole, afin que les exhortations et l'édification que tu as prévues pour nous pénètrent dans nos cœurs et y fassent son œuvre, Seigneur. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 5. Alors aujourd'hui, il s'agit de la suite et de la fin de notre parcours de cette première épître. Et je vous propose de scinder ce chapitre en quatre parties. Les deux premiers versets, ensuite les versets 3 à 11, 12 à 22 et enfin les derniers versets 23 à 28. Il s'agit ce matin d'essayer de partager ce que l'on peut percevoir des priorités de Paul à l'époque pour les Thessaloniciens et bien sûr pour nous aujourd'hui. Alors je fais volontairement une entorse au plan que je viens de vous présenter en évoquant en premier et rapidement le verset 27, une petite phrase qui pourrait passer anodine, mais qui souligne l'importance de cette première épître dans son ensemble. Que cette lettre soit lue à tous les frères. Je vous en conjure, c'est-à-dire je vous en supplie, que cette lettre soit lue à tous les frères. Alors ce verset, bien sûr, est une excellente raison pour nos anciens de nous avoir invités à partager en commun l'ensemble de cette épître. Il souligne, en quelque sorte, que personne ne peut dire qu'il n'est pas concerné par le contenu intégral de cette lettre. Ainsi, tous les frères qui sont jusqu'à ce jour intervenus ont pu relever pour nous, tour à tour, par exemple, toutes les actions de grâce que Paul faisait monter à Dieu pour cette Église fidèle et remplie d'amour fraternel. Comment Paul a tenu également à s'assurer de leur maintien dans la foi au cœur même de leur tribulation ou de leur tentation. Et cela tout en les exhortant à une pureté physique et morale. Il nous a été ensuite évoqué à la fois le mystère, mais aussi la réalité à venir de l'enlèvement de l'Église. Des morts en Christ ressuscités et des vivants qui partiront ensemble à la rencontre du Seigneur. Et pour terminer donc ce matin, ce dernier chapitre 5, au travers duquel Paul parle de la vie qui doit être celle des rachetés dans l'attente de la venue du Seigneur. Et l'on pourrait résumer ces quelques 28 versets de la manière suivante. Nous voyons clairement dans les trois premiers versets que l'intention de Paul n'est pas de disserter au sujet des temps et des moments, pas plus que sur le jour du Seigneur ou sur les conditions qui seront celles des hommes au moment de son avènement. En effet, ces trois éléments qui pourraient être des thèmes en eux-mêmes sont passés en revue en seulement trois versets. L'intention de Paul n'est donc pas de s'attarder sur ces sujets, mais plutôt de les poser comme un tremplin de tout ce qu'il a à cœur de nous dire. L'objectif visé par Paul pour cette fin d'épître semble donc être de souligner l'identité des chrétiens et de leur indiquer la manière dont ils doivent vivre dans l'attente de la venue du Seigneur. Je propose de lire maintenant donc les premiers versets, 1 et 2. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Jusque-là. Pour être clair, je voudrais tout simplement rappeler ce qui est mentionné dans la confession de foi de notre Église et de celle des communautés et assemblées évangéliques de France à laquelle nous appartenons. Concernant Jésus-Christ, nous proclamons que nous attendons son retour personnel, visible et prochain, pour chercher son Église, au moment fixé par le Père et connu de lui seul. Alors le règne et la gloire de Dieu seront pleinement manifestés. Ce que nous croyons également, c'est qu'à son retour, Jésus-Christ établira de manière visible pour tous son règne sur la terre. Règne auquel participeront l'ensemble des croyants qui composent l'Église. Alors, dans ces deux versets, il y a d'abord les temps et les moments. Et dans son premier verset, donc, Paul évoque ces temps et ces moments et il ajoute qu'il n'est nul besoin d'enseigner davantage aux Thessaloniciens sur ce thème. Pour aller dans le sens de la phrase de Paul concernant ces temps et ces moments, on peut rappeler les affirmations qui résident dans les déclarations du Seigneur lui-même. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est dans le texte des Actes. Et de même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 34, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Pas même les anges, ni même le Fils. Seul le Père sait. Donc, pas besoin d'en dire plus, car selon ces révélations donc, du Seigneur, et notamment dans ce passage de Matthieu, si ni les anges, ni le Fils le savent, on peut en conclure que Paul lui-même ne le savait pas non plus. Alors bien sûr, il est indiqué à plusieurs reprises dans la parole de Dieu des circonstances qui surviendront dans le monde, comme des messages d'alerte de la venue du Seigneur. On appelle cela des prophéties. Mais ces événements en question pourront moins nous donner des précisions quant au jour ou l'heure que de nous conforter dans l'attente de la venue du Seigneur. Ce que je réalise en somme sur ces temps et ces moments, c'est que vraisemblablement, pour nous protéger des tentations à vouloir absolument tout comprendre, tout expliquer, tout prédire, vous serez comme des dieux, vous vous souvenez de la Genèse ? Notamment en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, ou la connaissance du jour du Seigneur, ou du jour et de l'heure, ou de la chronologie des prophéties, Ce que je réalise donc, c'est que certainement pour nous protéger des erreurs d'une telle démarche, Dieu a volontairement laissé voiler les modalités et la chronologie de l'exécution de ses desseins. Et c'est certainement très bien ainsi. Si je compte parmi ceux qui affectionnent l'idée que l'enlèvement de l'Église pourrait avoir lieu en premier, il serait difficile de prétendre en faire une loi canonique. L'humilité est gage de sagesse. Elle n'est pas contraire à la foi, mais elle démontre plutôt notre dépendance de celui en qui nous espérons. Il nous faut absolument, les uns et les autres, avoir l'humilité de comprendre que le Seigneur accomplira sa parole sans forcément respecter nos scénarios. Dans son introduction de l'Épître aux Hébreux, son auteur dit « Dieu, dans ces derniers temps, ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. » Cette expression « dernier jour » est appliquée à l'époque de la rédaction de l'Épître aux Hébreux, soit 70 ans après Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il y a à peu près 1948 ans, soit plus de 711 000 jours que nous sommes dans les derniers jours. Alors quand je parle d'humilité, je pense réellement que ce texte nous y invite. Et pour tout vous dire, il me semble que l'essentiel du propos de Paul dans ce chapitre 5 de 1 Thessaloniciens n'est pas de nous fournir des éléments de calcul, ni même de nous inviter à en faire, mais que sa priorité est de nous exhorter à demeurer dans l'attente du Seigneur et de faire en sorte de n'être ni surpris ni manquant de vigilance au jour de son retour. L'exhortation de Paul est donc de nous voir attendre et désirer ardemment le retour du Seigneur. L'expression « le jour du Seigneur ». Alors cette expression désigne un temps où notre Seigneur Jésus interviendra de manière pratique et visible dans les affaires du monde. Ce jour du Seigneur, en référence à plusieurs textes de l'Ancien Testament, est appelé à être un jour terrible pour les nations et pour les hommes qui auront refusé de mettre à profit ce temps de grâce pour faire la paix avec Dieu, mais qui auront combattu Dieu. Ce jour-là sera pour eux tous un jour de ruine, de jugement. Ce jour qui ne peut être craint par l'Église de Christ, qui n'est ni appelée à être jugée, ni destinée à la colère, comme le précise plus loin le verset 9, mais qui, au contraire, est appelée à partager le règne et la gloire de son Sauveur. Ce jour viendra comme un voleur dans la nuit, rappelle l'apôtre dans ce texte. Cette expression marque à la fois la soudaineté et l'imprévisibilité, tout en confirmant que ce jour est appelé à survenir et que rien ne pourra s'y opposer. Cette soudaineté et cette imprévisibilité est comparée dans ce texte à la venue d'un voleur. Mais là se limite la comparaison au voleur à l'aspect imprévisible et soudain. Pour le reste, autant il n'est pas du tout assuré qu'un voleur vienne s'introduire chez vous, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, hein, autant la venue du Seigneur est certaine et son jour inévitable. Et cette expression-là précise donc en fait trois choses. soudaineté, imprévisibilité, mais également certitude. Il viendra, c'est sûr, de manière soudaine pour tous, avec surprise pour beaucoup, mais c'est sûr, il viendra. Verset 2, vous savez bien que le jour du Seigneur viendra. Allons un petit peu plus loin maintenant dans notre lecture. C'est les versets donc 3 à 11. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites. Alors la surprise sera uniquement pour les hommes qui vivent sans aucun intérêt pour Dieu et son œuvre, en comptant sur leurs propres moyens. Ils croiront fermement avoir réussi à rendre ce monde meilleur et fait de cette terre une terre de paix et de sécurité. Verset 3, paix et sûreté. Alors même qu'ils penseront avoir réussi dans leur quête de bonheur, voire d'immortalité, ils seront à ce moment-là surpris par cette ruine soudaine qui les atteindra et dont il est fait référence dans le verset 3. Ruine à laquelle ils ne pourront échapper. Les douleurs de l'enfantement surprennent les mamans. Elles leur indiquent que le jour approche, mais sans qu'elles puissent pour autant s'y soustraire. Ainsi en sera-t-il de la venue du jour du Seigneur. À partir du verset 4, Paul entame vraiment le cœur de son propos. Ce par quoi il tenait absolument à terminer sa lettre. Rappeler d'une part l'identité des croyants et d'autre part indiquer la manière dont les rachetés de Christ doivent vivre et se comporter dans cette attente. L'identité. Fils, enfant de la lumière. S'adressant aux rachetés du Seigneur, Paul dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ce même Paul, dans sa lettre aux Colossiens, précise, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans un sens, tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes tous dans un monde de ténèbres. Mais l'enfant de Dieu s'y trouve pour y tenir un rôle de lumière, celle de Christ. Il souligne la grande différence entre ceux qui ne lui appartiennent pas, ils sont dans les ténèbres, et ceux qui ont mis leur espérance en Jésus, qui sont en lui, dans sa lumière. Ce même Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse, « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière. Vivez comme des enfants de lumière. C'est à la fois notre identité et en même temps ce qui doit caractériser notre vie pratique et relationnelle. Paul souligne dans le verset 6 deux attitudes qui devraient caractériser les fils du jour. Vigilance et sobriété. Qu'est-ce qui nous empêche de veiller et de rester sobre en toute chose? Qu'est-ce qui nous empêche? Alors peut-être sans doute en premier de ne plus être dans l'état permanent de l'attente de la venue du Seigneur. Et peut-être au point même d'avoir oublié que Jésus revient. Et puis il y a certainement aussi tous les attraits du monde, nos modes d'occupation, toutes les priorités humaines, pour autant légitimes. Et puis peut-être qu'il y a aussi de croire que tant que toutes les prophéties ne seront pas réalisées telles que nous pensons les comprendre, Christ ne reviendra pas. Toutes ces choses et d'autres nous empêchent d'être dans la vigilance, éloignent nos pensées de la priorité de l'attente de sa venue. Paul rappelle que le contraire de vigilance et sobriété est assoupissement et ivresse. C'est en quelque sorte, en traduisant, ne plus être dans la réalité. Je me laisse aller, étourdi, envahi par cette vie sur terre, comme si c'était elle qui devait être l'objet de toutes mes préoccupations, de toutes mes attentes, de toutes mes espérances. Cela, c'est l'esprit du monde. Mais il doit en être autrement pour nous, ses enfants, pour tous les rachetés du Seigneur. Paul rappelle à nos cœurs trois éléments essentiels sur lesquels nous devons veiller. Notre foi qui nous abrite et qui nous protège de toute tentation à oublier les promesses du Seigneur. Ensuite, notre amour pour Dieu et pour les frères et sœurs, et que cet amour nous maintient dans la volonté de Dieu. Et enfin, notre salut qui rappelle à nos cœurs notre espérance et notre assurance à venir. Trois pieds de vigilance inébranlable. Le propos de Paul, donc, n'est donc pas d'insister pour que les Thessaloniciens croient en la venue du Seigneur. Ils y croyaient. Mais d'insister sur le fait qu'ils doivent l'attendre. Et cela m'a interpellé personnellement. J'y crois. Mais est-ce que j'y pense personnellement? Est-ce que j'y pense régulièrement? Est-ce que ma vie montre que je l'attends? Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Cette expression a caractérisé et ponctué toutes les prières d'une chère sœur de notre Église, et cela jusqu'à ce que le Seigneur l'ait repris. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Et en conclusion de ces versets que nous avons lus, retenons donc pour nous-mêmes cette expression fondamentale. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et il nous incombe donc de prendre au sérieux les avertissements répétés de Jésus lui-même. Le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Passons à notre passage 12 à 22. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Après ce rappel important de la nécessité de nous maintenir dans l'attente de la venue du Seigneur par la conservation d'un esprit éveillé et l'application à une vie pleine de sobriété en toutes choses, Paul veut maintenant rappeler aux chrétiens de l'église de Thessalonique quelles attitudes ils doivent avoir et maintenir les uns envers les autres en église, toujours dans l'attente de la venue du Seigneur. Paul débute son exhortation en ciblant les responsables. Par le moyen de ce petit mot « ceux », C-E-U-X, Paul met en relief l'organisation d'une église par le moyen de plusieurs responsables. Un principe de collégialité à l'exemple de Jésus qui s'était entouré de 12 disciples et qui l'avait habitué à travailler ensemble. À son exemple, les apôtres ont veillé à ce que des équipes de responsables soient reconnues dans toutes les églises implantées par la suite, et dont notre rassemblement s'évertue toujours à conserver le modèle. La collégialité est une donnée organisationnelle de base, incontournable dans le plan de Dieu pour son peuple. Paul commence par demander à l'Église tout entière de prendre en considération les responsables de l'Église. Si Paul marque cette distinction concernant les responsables, c'est à mon avis que nous devons y attacher une importance particulière. Ce n'est pas la seule allusion du Nouveau Testament quant à l'attitude que nous devons avoir envers nos anciens. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, dit « Ils veillent sur vous, sachant qu'ils auront des comptes à rendre, qu'ils puissent accomplir leur rôle, non pas en soupirant, ce qui ne serait pas à votre avantage, mais qu'ils puissent le faire avec joie. » Paul nous demande d'avoir de la considération pour eux, c'est-à-dire d'avoir pas seulement de la reconnaissance pour leur travail, mais le sens de considération dans ce passage évoque le respect. Avoir du respect en raison de leur position, de la position que Dieu leur a donnée et des dons et des qualités qu'ils mettent en œuvre par lui au bénéfice de l'Église tout entière. D'avoir pour eux de l'affection, c'est-à-dire de leur être attaché, de leur démontrer notre tendresse pour eux. Leur faciliter la tâche, par exemple, c'est leur montrer que nous les respectons, que nous les aimons et que nous acceptons et approuvons leur rôle. Souvent, les choses ne sont pas faciles pour nos responsables, notamment quand il s'agit, et même avec la plus grande tendresse, d'avertir celle ou celui qui n'a pas une vie en conformité avec sa foi, comme Paul les y exhorte dans ce passage. c'est de leur responsabilité. Et je ne peux pas, sous prétexte qu'il s'agit de ma vie, leur reprocher leur attitude de surveillant, de berger, qui, cas par cas, dans la discrétion mais aussi dans la vérité, sont tour à tour amenés à encourager, à bénir, à consoler, à supporter, à féliciter, ou comme ce texte le précise parfois aussi, à avertir. C'est souvent dans ce dernier aspect que va se mesurer toute la considération que nous avons pour nos anciens. Reconnaissance et acceptation respectueuse de leur rôle. De notre attitude envers nos responsables découlera une attitude envers les autres membres de l'Église. Vient ensuite dans notre texte une brève liste, comme une checklist. Terme anglais très utilisé en particulier dans le domaine technique. C'est en clair une liste de vérifications qui est établie dans le but de ne pas oublier les étapes nécessaires d'une procédure pour qu'elle se déroule avec le maximum de sécurité. Alors pour terminer, Paul nous adresse donc une courte checklist de recommandations afin de ne pas risquer de s'écarter ou d'oublier ce qui fait partie intégrante de notre fondement en Christ. Ne pas rendre le mal pour le mal, rechercher toujours le bien entre nous et pour tous, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Cette approche de Paul souligne les points importants de vigilance que nous devons avoir et passer en revue régulièrement en nous appuyant sur la prière. L'attente du Seigneur n'est pas synonyme de passivité, ou que nous ne devons pas vivre notre vie sur terre de manière plénière tout le temps. Au contraire, mais c'est plutôt de rappeler l'importance du choix de nos occupations. L'Église du Seigneur est souvent comparée à une épouse qui s'est préparée pour son époux, pour le jour des noces. Apocalypse 19. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'invitation de Paul pour les Thessaloniciens et pour nous est donc que nous nous occupions dans nos vies à des œuvres justes, qui démontrent notre attente du Seigneur, notre désir de lui plaire et notre réel désir de le voir. Quel mode de vie ou d'occupation démontre que j'attends dans ma vie le retour du Seigneur et que j'espère en sa venue? Quel mode de vie ou d'occupation démontre que j'attends et j'espère la venue du Seigneur? En conclusion, pour ce chapitre et sans doute pour toute cette épître, si cette église de Thessalonique avait des fragilités, elle n'en était pas moins fidèle selon ce que nous en a décrit Paul. Il se réjouissait de les voir grandir dans la foi et dans l'amour fraternel. Et il avait sans cesse pour eux des objectifs de progrès, des objectifs de vigilance. Alors il me semble que nous pouvons avoir ce même regard sur notre rassemblement, regard de fidélité, d'engagement, et en même temps d'avoir pour nous-mêmes ces mêmes objectifs qui démontrent notre attente du Seigneur, notre espoir de sa venue, au cœur même de nos fragilités, mais en comptant sur lui qui peut tout faire. Et donc ces derniers versets, 23, 24 et 28, qui sont la bénédiction de Paul pour les Thessaloniciens, j'en fais tout simplement ma conclusion pour notre Église ce matin. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Amen.